Bonsoir, c'est une simple affiche aperçue samedi sur un quai du métro parisien, mais on pourrait sans doute trouver à peu près la même à Toulouse, à Marseille ou à Strasbourg. Je cite, j'ai pris les notes, « Pour Noël, achetez aujourd'hui et payez dans 3 mois ». Et puis au-dessous, l'énorme photo d'une carte de paiement, format et pour cause, carte de crédit, le tout pour un groupe, disons, de la grande distribution. C'était vrai déjà avant la crise, ça l'est plus encore sans doute maintenant, plus les temps sont durs et plus le surendettement menace les familles ou les personnes seules. Récemment, à ce même micro, pour une émission consacrée aux travailleurs pauvres, un des intervenants nous expliquait que certains salariés en sont maintenant réduits à recourir au crédit, tout simplement pour boucler les fins de mois, autrement dit pour les dépenses courantes. Alors faut-il davantage de garde-fous contre le surendettement ? Le crédit non affecté, appelé aussi revolving, devrait-il être un peu moins facile et en tout cas sa publicité doit-elle être mieux encadrée, tout comme peut-être la responsabilisation des professionnels du prêt, mais aussi, le cas échéant, des particuliers, avec par exemple l'interdiction de signature d'un crédit dans une grande surface ou encore l'instauration d'un délai de réflexion. C'est le sens de la proposition de loi de Philippe Marini qui est avec nous dans ce studio ce soir et je le remercie. En tant que sénateur UMP de l'Oise, rapporteur général de la commission des finances du Sénat et auteur de ce texte qui vise donc, et on va en parler, c'est notre sujet de ce soir, à mieux encadrer le crédit à la consommation. À ses côtés, Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, l'Union fédérale des consommateurs, Pascal Rousserie, responsable de l'Observatoire CTLM, qui est un organisme de crédit aux particuliers. Pascal Rousserie, que je remercie très sincèrement pour sa présence avec nous, car allez savoir, timidité ou réserve naturelle, emploi du temps surchargé. En tout cas, avec Emmanuel Davier, nous avons vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver ce soir un interlocuteur représentant les organismes de crédit et qui accepterait donc de répondre à vos questions et de dialoguer avec nos autres invités en direct sur France Inter. Qu'il en soit donc remercié.
Le téléphone sonne.
On peut s'en douter, beaucoup d'appels déjà. Joël, vous êtes à Paris, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question.
Je vous en prie.
Bonsoir à vos auditeurs. Je pense moi qu'il faut encadrer le crédit à la consommation et surtout le taux d'intérêt de ces crédits. Mais vous avez parlé dans la phase introductive, le vrai fond du problème n'est-il pas en fait que les gens se servent de crédit pour substituer des fins de mois tout à fait difficiles. J'ai eu un exemple sur Internet, on tape pour acheter une voiture d'occasion sur le site Renault et on trouve pas de voiture par exemple si on ne marque pas que l'on veut un crédit. Mais je pense aussi que le taux de crédit et le taux d'endettement des ménages est quand même assez fort dans notre pays. Et l'exemple américain avec le surendettement lié au bas salaire qui a amené la crise devrait faire réfléchir un peu, je pense, les institutions de crédit qui vendent ce crédit revolving à tout un chacun et à tout moment. Ceci dit, pour les gens qui sont vraiment en grande difficulté, c'est Martin Hirsch ce matin qui disait sur votre antenne que 20% des plus pauvres, dans les dernières années, le reste à vivre a été divisé par deux. Donc ces crédits exorbitants, au taux exorbitant, incitent quand même les gens à consommer. Mais c'est une spirale assez vicieuse, puisque en fait, de taux de pauvreté, on s'enchaîne vers un taux de pauvreté encore plus bas.
Alors le crédit, souvent, parfois, malheureusement, disons, seule solution, seule voie de recours pour les plus pauvres d'entre nous. On va vous répondre sans occulter du tout votre question. Joël, je voudrais juste citer également le courriel de Brigitte, parce que vous parliez de Monsieur Hirsch pour le RMI, c'est aussi l'ouverture des Restos du Cœur, et vraiment, je n'invente rien. Elle nous a envoyé ce courriel, malheureusement, elle ne peut pas être au bout du fil. Elle dit, je suis bénévole au Resto du Cœur. Aujourd'hui même, j'ai fait une quinzaine d'inscriptions puisque c'était le jour de l'ouverture. Je suis choquée du fait que certains centres commerciaux poussent les personnes en grande précarité à prendre des crédits à la consommation. Et elle nous donne un exemple. Elle dit, j'ai inscrit un couple, mari invalide, deux enfants qui vivent avec 650 euros d'allocation adulte handicapé. Pas de loyer car ils bénéficient de l'APL, mais prélèvement 80 euros mensuels, crédit Carrefour 60 euros, crédit Auchan 20 euros, reste pour 4 personnes 510 euros pour lesquelles il faut prélever l'eau, etc. Enfin, véritablement, donc, des gens qui n'ont pas d'autres moyens pour, encore une fois, boucler les fins de mois que de recourir à ces crédits qui ne sont quand même, je pense qu'on en reviendra, pas faits pour ça du tout au départ. Un tour de table là-dessus, voulez-vous commencer, monsieur le sénateur ?
Alors, nous avons un crédit qui devient un crédit servant à tout,
voilà,
et qu'on n'identifie pas clairement comme crédit. C'est la question de la réserve de trésorerie, qui est accordée très facilement, qui est un complément aux achats, qui se traduit par une carte multi-usage, ou auquel on a accès par Internet, sans que l'établissement prêteur ne vérifie la situation de solvabilité de l'emprunteur. Mais vous avez évoqué, à juste titre, les plus pauvres et les plus fragiles. On doit aussi dire que bien des personnes peuvent être victimes du crédit et qui peuvent se situer parfois au niveau des classes moyennes. Il suffit d'un accident de la vie, il suffit d'une déprime, il suffit de ne plus se rendre très bien compte des engagements que l'on a pris, le crédit se renouvelle, on peut obtenir des montants supplémentaires et on a 20% d'intérêt à payer et pas de tableau d'amortissement, on ne sait pas où l'on en est. Je termine en disant, j'ai un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit, j'ai consacré un temps très important à démêler la situation de ma fille, qui était précisément dans un cas de figure proche de ce que j'indiquais. Elle est institutrice, elle a un salaire régulier et pourtant elle est arrivée au comble du surendettement. Et si je n'avais pas été là, elle aurait absolument sombré.
Alain Bazot, UFC Que Choisir.
Oui, ce qu'on assiste en France, c'est à ce qu'on appelle un mal-endettement. C'est-à-dire que on peut pas dire que la société française soit très endettée. J'allais dire, il y a pire. Mais le mal français, c'est que les établissements financiers, les établissements bancaires, proposent du mauvais crédit aux consommateurs. Quand je dis mauvais crédit, c'est que on dirige immanquablement le consommateur vers un crédit qui est extrêmement cher. C'est le fameux crédit revolving. Et bien souvent, on va attirer le client, il suffit de regarder les offres Internet, hein, on va vous attirer en disant, regardez ce taux à 4-9%, donc pas cher. Mm-hmm. Et une fois que vous commencez à entrer les données et que vous voulez emprunter pour de vrai, eh bien immanquablement, on vous dirige, si vous empruntez entre 500 et 8000 euros, c'est déjà des sommes importantes, eh bien on va vous diriger immanquablement vers ce fameux crédit revolving, qui n'est pas un crédit cher, pas cher, puisqu'il est au contraire à des taux extrêmement élevés, qui sont toujours proches de l'usure, autour de 20%. Et les personnes qui ont souvent besoin de ce crédit, eh bien ce crédit, on leur propose à chaque détour, dans les magasins, maintenant même les cartes bancaires des grandes banques, vous proposent au moment d'acheter des courses, qui sont souvent des contraintes d'achat, c'est-à-dire pour acheter de l'alimentaire, pour terminer les fins de mois, eh bien, la seule offre de crédit que l'on vous propose, c'est une offre très chère. Donc, ce sont les pauvres qui payent les crédits les plus chers, ce qui est dramatique, évidemment.
Commentaire également, Pascal Roussary, pour l'Observatoire CTLM. Merci encore une fois d'être là.
Alors, écoutez, moi, je suis là et tout à fait à l'aise d'être là, puisque CTLM développe un crédit responsable depuis plus de 50 ans. C'est d'ailleurs nous qui avons expliqué ce qu'était le crédit responsable depuis bien des années. Nous avons pris des engagements très concrets, mais avant de faire des propositions, je crois qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand j'entends dire, et c'était d'ailleurs en introduction de votre émission, que les Français utilisent le crédit à la consommation parce qu'ils ont des problématiques de pouvoir d'achat, c'est archi faux, puisque le marché du crédit à la consommation en 2008 va régresser. Très clairement pour nos auditeurs, ça veut dire qu'en 2008, les Français prendront moins de crédits qu'ils n'en ont pris en 2007. Ça, ce sont des vrais chiffres, ce sont les chiffres de l'Association des sociétés financières. Quant à l'endettement général des Français, regardons les choses de très près. Les Français, que l'on parle de crédit à la consommation ou de crédit immobilier, ils sont aujourd'hui 3 fois moins endettés que les Américains, et c'est tant mieux, ils sont 2 fois moins endettés que les Britanniques et les Scandinaves, que l'on prend très souvent en exemple, 1,5 fois moins endettés que les Allemands et les Espagnols. Donc attention, chez CTLM, nous sommes tout à fait d'accord et ouverts à toutes les propositions, 1000 fois oui, pour faire en sorte que notre métier se développe de la meilleure des façons, mais en même temps, il ne faut pas partir d'un constat qui est faux, les Français sont peu endettés, et c'est tant mieux dans la période de crise d'aujourd'hui. Le marché du crédit aujourd'hui ne se développe pas. Je voudrais finir d'un mot en disant que les problématiques de pouvoir d'achat aujourd'hui, elles sont réglées comment ? Les Français ont puisé dans leur épargne, le taux d'épargne a perdu 2 points en 2 ans et ils sont adeptes du hard discount, du low cost et d'Internet. On a une étude CTLM qui montre que 80% font leurs courses au hard discount alimentaire. Donc 1000 fois oui pour des propositions, mais attention, il ne faut pas faire des propositions sur des intuitions et des constats qui sont faux.
Chantal, vous êtes à Bourg-la-Reine, bienvenue à vous aussi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, il y a 3 mois, j'ai eu l'occasion de faire un achat dans un magasin d'ameublement. Et donc, on m'a proposé une carte. Lorsque j'ai demandé à quoi elle servait, on m'a dit, bah, ça vous permet d'avoir des chèques cadeaux, des réductions, etc. Bon. Et si vous la prenez aujourd'hui, ça vous permet de payer dans 3 mois sans intérêt. Donc, ma foi, pourquoi pas, j'ai pris la carte. Donc, j'ai rempli un dossier et on m'a demandé mes revenus mensuels. J'ai annoncé 3000 euros. Mais j'aurais pu dire 5000, j'aurais pu dire 1000, puisque aucune vérification n'est faite. On ne vous demande pas de bulletin de salaire. Et une dizaine de jours après, donc j'ai reçu un courrier avec une carte. Le courrier me disait, pour permettre de financer un achat, vous avez souscrit un crédit réflexion. Alors que non, moi on m'a dit, vous pouvez payer dans 3 mois si vous voulez sans intérêt. C'est pour ça, mais j'ai jamais souscrit de crédit. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que cette lettre m'indique que j'ai un crédit ouvert de 1500 euros. Au taux de 20,59%, c'est-à-dire 50% d'un salaire mensuel annoncé et non vérifié. Et j'ai trouvé ça extrêmement choquant.
Réaction
J'ai l'un de mes collaborateurs qui a fait l'exercice de s'adresser à 3 grandes maisons de crédit pour obtenir un crédit de trésorerie de plusieurs milliers d'euros, 4 500 euros, et qui annonce par exemple qu'il est propriétaire, il indique loyer zéro, prêt immobilier zéro, on ne lui pose aucune question. Il indique qu'il est employé dans une société Job à rue Honoré de Balzac à Sceaux qui n'a jamais existé, etc.
Pas de vérification.
Etc. Donc je souscris totalement à ce qui a été dit par votre correspondante et c'est un des points importants. S'assurer de la solvabilité des emprunteurs.
Monsieur Rossary.
Alors écoutez, moi je ne vais pas parler au nom de toutes les personnes qui sont sûres. Mais ce que l'on peut dire, chez CTLM, plus de 98% des dossiers sont soldés intégralement. Plus de 94%.
Donc les vérifications, vous les
évidemment,
vous les
je vais vous expliquer pourquoi. Ça n'a pas de sens de penser qu'un organisme de crédit puisse prêter de l'argent à quelqu'un qui ne pourrait pas rembourser. C'est comme un marchand de meubles ou d'électroménager qui accepterait de vendre sachant que le chèque est en bois. Ça n'a pas de sens. Les marges sur le crédit à la consommation sont extrêmement basses. Et la seule façon de pouvoir pérenniser l'activité, c'est de fidéliser les clients. Vous ne les fidélisez pas si vous les mettez dans la panade. Et en fait, un des engagements forts de CTLM, c'est d'être les premiers à lutter contre le surendettement. Juste d'un mot, la crise des subprimes aux États-Unis. Pourquoi il a eu lieu? Parce que le schéma aux États-Unis est très différent du schéma français. En France, vous avez des taux d'intérêt qui sont bas, notamment en immobilier, et donc qui ne permettent pas de générer du risque. Aux États-Unis, les taux étaient très forts, on a généré du risque, et donc derrière, il y a eu cette crise de subprime. Mais encore une fois, tordons le cou à l'idée selon laquelle les organismes prêteraient de l'argent sans savoir s'ils vont être payés. C'est complètement faux et ça ne peut pas marcher.
Non, mais attendez, moi je ne vais pas parler spécialement des pratiques de CTLM. Moi, je vais parler de tous les organismes financiers, que ce soit Cofinoga, Cofidis, etc., etc. La réalité, elle est, les faits sont têtus. La réalité, elle est contraire à ce que vous venez de dire. Moi, je vous fais le pari que en moins de 24 heures, j'ouvre sans aucune difficulté une dizaine de crédits permanents et tout le monde peut le tester. Et dans les crédits et dans les dossiers de surendettement, on n'a pas moins de 6 crédits permanents qui ont été souscrits. Et monsieur le sénateur en a fait la démonstration, vous ouvrez un crédit sans qu'on se soucie de la capacité à rembourser, on vous dit, on vous demande tout juste une feuille de paye, et encore, donc non, c'est pas sérieux de dire que vous prenez toutes ces précautions.
Je voudrais terminer et rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure.
C'est vrai qu'il n'y a pas un taux d'endettement qui est très important dans la société française. Je répète ce que j'ai dit, il y a un mauvais endettement. C'est-à-dire que les consommateurs français n'ont pas en face d'eux l'offre de crédit qui correspond à leurs besoins. Quand vous avez un besoin de crédit, aujourd'hui, ce qu'on vous propose allègrement, c'est uniquement du crédit revolving. Et en France, par exemple, ça a dépassé, les encours de crédit revolving ont dépassé les encours de crédit affectés. Aller en Allemagne, c'est 6% de crédit affecté, c'est 6% de crédit revolving, en France c'est 22%, c'est du mauvais crédit.
Monsieur Rousseri, oui. Ensuite le sénateur alors, Philippe Marini.
Simplement, oui, si, le crédit revolving, était autant proposé par les organismes de crédit, comment pouvez-vous expliquer qu'il représente 22% des encours et qu'il perd un point chaque année, alors que sur chaque carte, on a la possibilité aujourd'hui même d'aller prendre des espèces dans les distributeurs. Ouais. On peut utiliser les cartes et pourtant, l'encours de carte sur la totalité du crédit à la consommation perd un point chaque année. Et quand vous faites référence à l'Allemagne, vous oubliez une chose, c'est qu'en Allemagne, on utilise du découvert bancaire. Et qu'aujourd'hui, que je sache, la tarification d'un découvert bancaire ou la tarification d'un prêt permanent, c'est la même. Maintenant, allez voir les autres grands pays matures au monde, ils utilisent des cartes et c'est plus de 50%. Oui. Aujourd'hui, je tiens à dire, et encore une fois, il faut évidemment trouver des mesures pour faire en sorte que ça aille beaucoup mieux, mais le crédit permanent, il suit le même rythme que le crédit à la consommation, c'est-à-dire qu'il va baisser cette année et son poids dans les encours au total perd un point chaque année. Ça, c'est la réalité, c'est des chiffres de la Banque de France.
Maintenant, au milieu de l'année 2007, total des encours du crédit revolving, 29 milliards d'euros. Total des encours du crédit affecté, 23 milliards d'euros. Donc la forme dominante du crédit à la consommation, c'est le crédit revolving.
Je ne peux pas vous laisser dire ça. La forme dominante du crédit à la consommation est le prêt personnel, puisqu'il fait la moitié.
Le prêt personnel, c'est le prêt bancaire qu'on se fait attribuer par son agence, qui vous connaît et qui connaît les garanties apportées.
Absolument pas. Le prêt personnel...
Monsieur, vous nous apportez des éléments statistiques que l'on peut connaître aussi bien que vous, parce que ce sont des statistiques officielles. Maintenant, moi, je voudrais simplement vous poser quelques questions. Est-ce que vous acceptez que les ressources, que la solvabilité des emprunteurs soient vérifiées et que les organismes de crédit soient obligés de vérifier ces données. Oui ou non?
Mais mille fois oui, puisque lorsqu'on en fait un
dossier de crédit... Donc vous êtes d'accord avec l'un des éléments clés de ma proposition de loi.
Marie,
maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on affiche clairement que c'est un crédit? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il n'y ait pas d'offre promotionnelle? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il n'y ait pas de confusion sur les lieux de vente? Ce sont des questions concrètes auxquelles il est important d'avoir une réponse concrète.
Alors, nous avons des réponses concrètes sur tous vos points. Simplement, je dis qu'on ne peut pas faire des propositions en partant d'un constat qui est faux. Je vais rappeler quand même pour les auditeurs qui ne le savent pas, quelles sont les causes du surendettement aujourd'hui. Et ça, ce sont des statistiques de la Banque de France. Pardonnez-moi d'être sur des chiffres, mais c'est la vraie vie. Je ne parle pas sur des intuitions et des cas personnels. 75% des causes de surendettement sont liées à des accidents de la vie, c'est-à-dire le chômage qui malheureusement est reparti à la hausse, maladie, séparation, divorce. Les séparations et divorces font de vrais dégâts dans les budgets. 75%. Le fait de se retrouver dans une situation...
Mais je n'ai pas de réponse claire à mes questions, pardonnez-moi, parce que vous partez sur de grandes envolées et des propos très macroéconomiques que l'on peut en effet tenir comme vous. La question est de savoir si oui ou non il est souhaitable d'encadrer ce type de pratique d'accès direct, comme on le voit, simplement en interrogeant Internet. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'analyse économique. On peut en faire comme vous, de l'analyse économique.
Sénateur Marini, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans les années 2000, le fait de se retrouver en position de surendettement parce qu'on avait fait un abus de crédit était de l'ordre de 20%.
Non mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez avoir l'obligation de répondre aux questions
pour aujourd'hui, c'est 13%. Maintenant, comment fait-on pour prendre un crédit chez CTLM? C'est très simple. On demande un justificatif d'identité. Pourquoi? Parce que nous consultons systématiquement le fichier des incidents de paiement.
Ben, vous êtes le seul. Hein.
Si les personnes sont sur le fichier des incidents de paiement, c'est un refus. Donc, nous le consultons systématiquement. Deuxième point, nous demandons un justificatif de domiciliation bancaire et de préférence un chèque annulé, ce qui prouve que la personne a un chéquier et donc n'est pas interdit bancaire. Et nous demandons un justificatif de revenus. Voilà comment sont montés les dossiers de crédit, qu'ils soient faits d'ailleurs sur le lieu de vente ou qu'ils soient faits en direct. Et encore une fois, ça n'a pas de sens de prêter. En tout cas, c'est ce que souhaite faire cet LM qui est le premier à lutter contre le surendettement pour pouvoir pérenniser son entreprise. qu'il y ait des cas, qu'il y ait des débordements, qu'on puisse aller un samedi après-midi dans un magasin et demander plusieurs cartes et avoir des préacceptations, je ne vous dirai pas le contraire. En revanche,
mais est-ce que vous êtes favorable à cette situation? Est-ce qu'il faut l'encadrer?
Mais il faut continuer encore plus à faire en sorte que l'octroi de crédit permette d'avoir derrière des taux.
Donc vous êtes d'accord avec ce que je propose?
Pas avec tout ce que vous proposez, mais je suis d'accord avec le fait de réfléchir ensemble.
Oui, mais réfléchir très concrètement et puis arriver à quelque chose d'opérationnel.
Entre réfléchir, Monsieur Marigny, et aller jusqu'à proposer quasiment l'interdiction du crédit permanent sur le lieu de vente. Sachez quand même que le crédit à la consommation, ça soutient la consommation. La consommation, c'est le premier moteur de la croissance.
Écoutez, macroéconomie, on le sait. Si la consommation est soufflée par l'insolvabilité, au bout de trois mois, elle s'effondre et on n'est pas plus avancé.
Sauf qu'on n'oublie pas les auditeurs, Emmanuel Davier, vous vouliez intervenir, non? Parce que franchement, on a pris une auditrice en tout et pour tout.
Alors justement, l'auditrice qu'on vient d'entendre, elle a soulevé un point qui me paraît très important, c'est la confusion des cartes. On a des cartes simultanées de paiement, de crédit, de fidélisation, d'accès à des services. Sénateur Marigny, qu'est-ce que propose votre loi pour lutter contre ça?
Alors, premièrement, interdire de lier dans les publicités une offre préalable de crédit et l'offre de lot promotionnel. Deuxièmement, interdire dans les publicités et informations relatives au crédit renouvelable les mentions laissant entendre que ce type de crédit est de nature à faciliter la gestion du budget de l'emprunteur. Et troisièmement, interdire le démarchage en matière de crédit renouvelable, par écrit ou par toute autre forme de démarchage, ou par téléphone, ou par tout ce qu'on veut. Quatrièmement, je vous prends quelques exemples, interdire la mise à disposition de fonds liés à un crédit renouvelable par retrait d'espèces. Ce sont des choses extrêmement concrètes. Mmh. Vous savez, c'est pas de la théorie. Il s'agit de faire en sorte que les établissements de crédit poursuivent normalement leur métier, qu'ils financent l'économie, qu'ils financent les particuliers, mais simplement que la parole soit respectée et que l'on soit clair avec les gens et qu'ils comprennent clairement ce qu'ils achètent et à quel prix.
Alain, dans les Landes, en ligne, merci d'avoir attendu. Bonsoir Alain.
Bonsoir à vous tous, à tous les présentateurs là. Ce que je voulais dire, bon, j'avais trois crédits revolving, d'ailleurs il y en avait un qui servait à financer les deux autres, et j'ai réussi à les faire racheter par un seul crédit à 8%. Qu'est-ce qui justifie le taux de près de 25% des crédits revolving? Est-ce qu'il y aurait une entente quelque part?
Non, je pense qu'il peut y avoir une réponse. C'est que dans la mesure où c'est un crédit qu'on diffuse, qu'on le veuille ou non, les yeux fermés, il y a un risque qui est très élevé. Et donc, on mutualise le risque en faisant des taux d'intérêt très élevés. Je vois pas comment on peut expliquer autrement le taux d'intérêt élevé. Il est lié au risque que prend la banque, mais elle préfère prendre ce risque. Elle sait que sur la communauté des consommateurs, on va presser le citron et beaucoup vont réussir à quand même rembourser, même s'il y a un taux de déchet, j'allais dire, de gens qui vont se retrouver en surendettement.
Raphaël, vous êtes à Paris pour votre part. Bonsoir. Raphaël.
Oui.
On vous écoute. Bienvenue sur France Inter.
Oui, bonjour. Non, mais voilà, moi j'ai juste appelé pour dire, parce que je trouve ça scandaleux, qu'on trouve des publicités toutes les trois pages dans les magazines populaires, enfin de télévision ou les magazines People, quoi.
Des publicités pour les crédits non affectés.
C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel petit magazine comme ça, de télévision ou d'autres, toutes les trois quatre pages, il y a une publicité par rapport à ça.
Le CTLM fait de ce genre de publicité, Monsieur Roussary?
Alors, CTLM fait de la publicité, évidemment, pour ses offres. Simplement, je tiens à dire que nous sommes les seuls, avec notre petit bonhomme vert, qui est très sympathique, à dire en publicité télévisuelle, c'est-à-dire, malgré tout, le média le plus puissant, que nous refusons des dossiers. Nous expliquons, dans nos publicités, que nous refusons 30% des demandes dans l'intérêt des clients. Et donc, je suis tout à fait à l'aise pour parler de publicité et d'information, et je crois d'ailleurs qu'il y a un vrai sujet également d'information sur les contrats, parce que le marché du crédit est tellement encadré, il y a tellement aujourd'hui de mesures à inscrire, que ça devient très compliqué pour un consommateur de tout comprendre. Et là-dessus, tout le travail que l'on pourrait faire d'ailleurs ensemble sur la clarté des dossiers, sur les pratiques d'information, nous vont tout à fait bien. Encore une fois, on
explique qu'on refuse les dossiers.
Par rapport à l'auditeur précédent qui empilait en fait ses crédits, il faut savoir que 84% des personnes qui sont surendettées ont justement un empilage de crédits comme ça, et que le montant moyen de leur dette s'élève, enfin avoisine, les 20 000 euros, ce qui est une somme quand même tout à fait conséquente.
C'est absolument incroyable. Quand j'ai lu ce chiffre de 19 000 euros de montant moyen de crédit dans les dossiers de surendettement, hein, ça c'est une moyenne, statistique Banque de France, moyenne de l'encours de crédit des personnes surendettées. Mmh. Mais c'est inimaginable, compte tenu du revenu moyen auquel on pense. C'est inimaginable.
Et en réalité, s'il est sans doute vrai que c'est pas la cause de surendettement, que c'est la perte de travail ou des événements dans la vie, la réalité, c'est que le crédit revolving, en fait, accentue le surendettement et le rend beaucoup plus problématique. Mmh. Moi, je voudrais rebondir sur le problème de la loyauté de l'information et de la publicité. Parce que moi, je crois que tout le monde constate, et l'auditeur l'a dit tout à l'heure, qu'on a de nouveau une recrudescence des publicités qui sont pas loyales. C'est-à-dire que on laisse entendre au client qu'il va pouvoir avoir de l'argent très rapidement, sous 48 heures, alors que la loi prévoit normalement un délai de 7 jours. On vous dit que ça va être 0 euros pendant 3 mois. On vous dit pas qu'en réalité, les intérêts commencent à courir et vous allez les payer un peu plus tard. Et puis, on retrouve de nouveau des pratiques qui consistent à vous faire des cadeaux. J'en ai une sous les yeux, où on vous dit, eh bien, on va vous faire un cadeau d'une chaîne IFI si vous prenez un crédit. Autrement dit, le crédit n'est plus un accessoire à un achat, c'est devenu un acte principal. Et les vendeurs, maintenant, ont plus intérêt à vous vendre d'abord du crédit plutôt qu'à vous vendre
l'objet
lui-même.
Commentaire, Pascal Roussary.
Non, je veux dire qu'il faille regarder de près toutes les pratiques, mille fois oui, on est bien d'accord avec ça. Simplement, regardons ce qui se passe aujourd'hui. 98% des dossiers sont soldés intégralement. Ce qui se passe, c'est qu'on confond les notions d'endettement et les notions de surendettement. C'est dommage, c'est le même mot. C'est-à-dire que l'endettement, c'est quand on conduit sa voiture, et le surendettement, c'est quand on a un accident. Mais est-ce que parce qu'il y a des accidents, il faudrait faire en sorte de stopper la possibilité à tous les autres de conduire? C'est le vrai sujet.
Maurice, vous êtes en Île-de-France. Bonsoir Maurice, bienvenue.
Bonsoir messieurs.
On vous écoute.
Merci de votre appel. Je suis assez surpris parce que je suis interpellé par ces crédits qui surendettent les gens, je le maintiens. Parce que quand vous prenez un prêt immobilier, vous n'avez pas le droit de dépasser 33%. Et je ne l'invente pas, j'ai encore eu le phénomène il y a quelques jours. Or, il me semble que quand j'emprunte de l'argent, je vais voir un prêteur, je suis emprunteur. On est bien d'accord? Il suffirait tout simplement que nous ayons un fichier central qui refuse ce crédit au bout de 7 jours pour le vendeur, éventuellement pour le prêteur. En disant, non monsieur, vous ne pouvez pas, monsieur ou madame, vous ne pouvez pas rembourser votre crédit. Vous avez dépassé les 30%, ou les 33%, c'est l'encadrement qui est fait par les banques.
C'est donc bien l'information, ou le dialogue du moins entre l'emprunteur et Alain Mazot et ensuite...
Ce que propose l'auditeur, c'est ce qu'on appelle un fichier positif. Oui. C'est-à-dire, il faudrait ficher tous les crédits des consommateurs, et je crois que c'est une solution dangereuse et en fait qui est la fausse bonne idée. Parce que, vous savez, vous pouvez avoir des personnes qui ont un certain nombre de crédits et qui vont très bien gérer leurs crédits, et puis il n'y a pas toutes les dettes. C'est pas ça qui vous donne une approche réelle de la surface financière du client, du consommateur. Parce que il peut avoir, vous n'avez pas forcément le loyer, il peut avoir d'autres frais qui ne sont pas mentionnés. Donc c'est pas parce que vous avez l'encours des différents crédits que vous avez la situation totale. Moi, je plaide plus pour une vraie responsabilité du banquier d'abord. C'est-à-dire qu'il a à sa disposition la consultation du FICP. On nous a dit là, monsieur de CTLM, qu'il le faisait systématiquement. Mais c'est loin d'être le cas dans la profession. Et puis, il suffit d'instruire un peu plus le dossier, de demander les fiches de paye, les relevés bancaires. Et on voit tout de suite avec les relevés bancaires s'il y a d'autres engagements d'emprunt. Donc, avant de ficher tout le monde pour régler les pratiques irresponsables dans la distribution du crédit par les établissements de crédit, faisons en sorte que les établissements de crédit soient plus responsables eux-mêmes et instruisent davantage avant d'octroyer les yeux fermés les crédits.
Sur Pascal
le
fichier, Roussaré, ensuite,
sur le fichier, si vous le permettez. Sur le fichier,
Pascal Roussaré.
C'est un sujet dans le sujet, mais il ne faudrait pas que ce soit l'alibi pour ne rien faire dans l'immédiat. Parce que le fichier positif qui est sollicité par un certain nombre de personnes, récusé par bon nombre d'autres, c'est forcément une machine très lourde, et qui va être coûteuse, qui va être lente à mettre en place, et qui va se répercuter sur le consommateur. Alors, est-ce la meilleure chose à faire ? Ceci mérite en effet d'être bien approfondi. En ce qui me concerne, j'ai à ce stade limité ma démarche à la clarté de l'information, au délai de réflexion, et également à quelques dispositions qui pourraient sensibiliser les établissements de crédit dans le cas où un crédit aurait été accordé de façon manifestement négligente. La commission de surendettement, si la personne est surendettée, doit être en mesure de proposer au juge une sanction, c'est-à-dire la déchéance des intérêts, voire une pénalité. Je crois que c'est un dispositif raisonnable, concret, et qui peut se mettre en place rapidement.
Monsieur Roussaré.
Alors, juste deux points. Tout d'abord, je crois qu'il faut tendre le coup à ce ratio des 33%. Attention. Quand quelqu'un gagne 10 000 euros par mois, même s'il est endetté à 80%, il lui reste 2 000 euros, il peut vivre. Quand quelqu'un gagne 1 000 euros par mois, même endetté à 20%, il ne peut pas vivre. Donc arrêtons avec cette idée des 33%. Ce qui est important, c'est de prendre tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et vous avez raison, il faut avoir tous les documents pour savoir véritablement quel est le budget du client. Et ensuite, on appelle, alors le terme n'est pas très beau, le reste à vivre, qui permet d'y voir clair. Donc il faut oublier ces 33% parce que c'est d'une rigidité et ça ne reflète pas la réalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le fichier positif. CTLM, depuis 10 ans, a expliqué à l'ensemble des associations de consommateurs que c'était une fausse bonne idée, alors que tout le monde était pour. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Parce que dans tous les pays où le fichier positif existe, c'est dans ces pays que les taux d'endettement sont les plus forts. Pourquoi ? Parce qu'il est utilisé pour faire du marketing direct et faire des propositions de crédit, et non pas pour lutter contre le surendettement. Et quand on prend les causes du surendettement, qui sont les accidents de la vie, c'est pas parce que vous auriez un fichier positif que vous allez régler quelque chose. Absolument pas. Puis troisième point important, c'est qu'il y a la confidentialité des informations. Moi, partager des informations avec des gens qui ne sont pas liés au secret bancaire, ça pose un sacré problème. Donc le fichier positif, c'est une fausse bonne idée. En revanche, on a en France un FICP, un fichier des incidents de paiement. Je pense qu'il faut le renforcer.
Un fichier négatif.
Négatif. Nous y travaillons d'ailleurs avec les services de Christine Lagarde. C'est-à-dire, l'idée, c'est de renforcer le fichier négatif, d'y mettre un plus de réactivité, plus de choses. Et il fonctionne déjà pas mal. Et je crois que c'est la vraie.
Non, il fonctionne pas bien. Il fonctionne pas bien.
Emmanuel Davier. 90% des dossiers sont soldés intégralement.
Alors, je voudrais élargir un tout petit peu à des questions peut-être d'ordre plus technique. En tout cas, c'est très concret. On sait que la demande pour accéder au crédit revolving va probablement s'accentuer dans les mois à venir, sous l'effet de la crise, malgré les chiffres que monsieur nous donnait. Moi, je voudrais savoir, sénateur, comment vous allez faire, parce qu'il y a urgence, pour techniquement mettre en place rapidement cette loi. Parce qu'une loi, alors, ça se discute.
Absolument. Alors, à ce stade, c'est une proposition de loi. Elle va être inscrite
à l'ordre du jour, voilà.
À l'ordre du jour du Sénat, séance réservée à l'initiative parlementaire, en principe le 20 janvier. Donc c'est un processus très rapide. C'est la première niche, on parle de niche, c'est la première niche disponible devant nous. Bon, au sein de l'exécutif, j'ai rencontré plutôt des échos favorables. Et je veux dire que ceux qui y sont défavorables ne sortent pas trop du bois ces temps-ci. Vous voyez ?
Vous allez devoir, vous allez devoir pourtant batailler ferme avec le lobbying des banques.
Alors, je vais mercredi avoir le plaisir de recevoir le président de la République à Compiègne. Et d'ailleurs dans un déplacement consacré à la lutte contre la pauvreté, contre la grande pauvreté. Alors, je serais surpris qu'il n'y ait pas quelqu'un qui lui pose une question
bien
de cette
sûr.
Nature. Bon, on va voir, j'espère que sa réaction sera encourageante. Enfin, en tout état de cause, il y a plusieurs membres du gouvernement qui m'ont encouragé, Martin Hirsch bien sûr, mais aussi Hervé Morin, soutenant une proposition antérieure de Jean-Christophe Lagarde, député maire de Drancy, qui était intervenu sur ce sujet il y a déjà un certain temps. Brice Hortefeux m'a dit, mais c'est très intéressant. Enfin bon, j'ai l'impression qu'il y a un climat plutôt propice. Mais ceci dit, c'est un texte qui est et j'ai
et vous avez le soutien de l'UFC que je choisis voilà.
Et de toutes les associations de consommateurs.
Voilà, absolument. Michel, bonsoir Michel, vous êtes à Vannes, oui. C'est cela? On vous écoute?
Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que je suis un petit peu, outrée d'entendre ce que j'entends de la part du représentant de chez CTLM. Je voudrais vous dire que j'accompagne actuellement une personne qui avait 16 crédits à la consommation.
16 ?
16, dont 2 chez CTLM. Et bien entendu, incidents de paiement extrêmement nombreux, puisque le total de ses remboursements mensuels dépassait ses revenus. Je dois dire que CTLM en particulier lui envoyait des lettres de rappel avec des frais extrêmement importants. Les remboursements mensuels ne couvraient la plupart du temps que les frais, les assurances et les pénalités. Mmh. Et dès que ce monsieur... a perdu complètement le moral, il a fait appel à une association et nous l'avons accompagné. Nous avons, à ce moment-là, nous lui avons proposé une démarche auprès du tribunal d'instance, ce qu'il a fait. Un conciliateur de justice a été nommé et a demandé un échelonnement des dettes à tous les créanciers.
Oui.
3 ont refusé, dont CTLM. Et je dois dire que les rappels ont continué avec des lettres de menace où on avait en bas de la lettre une proposition pour un nouveau crédit. Mmh. Et
si vous le permettiez qu'on puisse simplement avoir une minute pour vous répondre. Merci Michel Devanne pour ce témoignage. Pascal Roussary, on ne connaît pas le détail du dossier,
mais je
présume que cette personne n'invente rien. Ben, 16 crédits.
Absolument. Alors moi, je ne peux pas régler un cas. Je ne peux pas régler un cas que je ne connais pas, mais même je peux inviter la personne à me contacter hors antenne pour qu'on puisse le voir ensemble. Simplement que des personnes aient plus de crédits, 15, 16. Que ça existe, c'est vrai. En même temps, ce qu'il faut dire, c'est que, notamment chez CTLM, je le disais, 98% de nos dossiers sont soldés intégralement, 94% ne connaissent pas d'incident de paiement, et tout ce que l'on souhaite, c'est faire en sorte que ça aille au bout, parce que le tout, c'est de pérenniser l'activité. Pour autant, qu'il y ait des cas avec des problématiques, oui, et je pense que c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des propositions de loi, qu'il y a des gens qui, tous les jours, essayent d'avancer pour faire en sorte que ça aille beaucoup mieux. Mais, en même temps, encore une fois, il n'y a aucun intérêt pour une banque ou un organisme de crédit de prêter de l'argent à quelqu'un qui ne pourrait pas le rembourser. Ça n'a pas de sens, ça ne tient pas debout.
Du nouveau, au mois de janvier, comme nous l'a dit le sénateur Philippe Marini, avec l'examen, en tout cas l'inscription à l'ordre du jour de sa proposition de loi. Vous écoutez France Inter, il sera 20h dans quelques instants. Demain soir, au téléphone sonne, des élections prud'homales et surtout des prud'hommes, des conseils de prud'hommes. Pourquoi faire et avec quels enjeux? 20h pile, merci à tous, bonsoir, à demain.
Cette émission a été dirigée par Alain Bédoué.